VOA Afrique, les infos. À Washington, Camille Grosdidier.
Bonsoir. Au Burundi, l'ambassade des États-Unis était confinée ce jeudi après-midi dans la capitale Bujumbura. Des marines positionnées sur le toit après l'intrusion de quelques 200 étudiants venus y chercher refuge. Un développement qui intervient peu après que le deuxième vice-président du Burundi, membre éminent du parti au pouvoir, ait fui le pays et trouvé refuge en Belgique. Gervais Rufyikiri a appelé le président Pierre Nkurunziza à renoncer à un troisième mandat. Le point avec Jacques Aristide.
Le deuxième vice-président, Rufyikiri, a adressé une lettre très sévère au président Pierre Nkurunziza, affirmant que sa candidature à un troisième mandat va conduire le pays à une véritable crise sociopolitique. Vous avez décidé de foncer et d'engager le peuple burundais sur la voie de l'illégalité, écrit-il dans cette missive que cite l'AFP, et d'ajouter que les conséquences sont déjà visibles avec des dizaines de milliers de Burundais réfugiés dans les pays voisins, des manifestations réprimées de façon surdimensionnée, dit-il, et un isolement international croissant d'un pays au bord de l'effondrement économique. La défection de Gervais Rufyikiri, ce professeur d'université considéré comme l'un des grands intellectuels du régime au pouvoir, intervient à 4 jours d'élections législatives, scrutin que l'opposition n'exclut pas de boycotter et dont la communauté internationale demande le report compte tenu de la grave crise que traverse le Burundi. Une crise également traduite ce jeudi par des étudiants qui se sont réfugiés dans l'enceinte de l'ambassade américaine à Bujumbura. Ils campaient depuis fin avril devant l'ambassade, dont ils demandaient la protection après avoir été chassés de leur campus au début des manifestations contre le président Nkurunziza. Les 200 étudiants ont pénétré dans le complexe après avoir été sommés par la police ce matin de quitter les lieux.
Le gouvernement sud-africain va réfléchir à son adhésion au statut de Rome de la Cour pénale internationale, a annoncé Pretoria. Le point avec Michel Joseph.
Cette décision fait suite au récent conflit qui a opposé Pretoria à la Cour pénale internationale, qui réclamait l'arrestation du président soudanais Omar al-Béchir, a annoncé jeudi la présidence sud-africaine. Al-Béchir, qui était visé par un mandat d'arrêt international, a quitté l'Afrique du Sud la semaine dernière, alors que la justice sud-africaine l'avait sommé de rester sur le territoire. Comme l'Afrique du Sud est signataire des accords fondateurs de la CPI, elle est tenue d'appliquer ses mandats d'arrêt. Mais tout comme l'Union africaine, le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir en Afrique du Sud, accuse le tribunal de La Haye de s'acharner de façon sélective contre certains pays d'Afrique. Aux yeux de Pretoria, la CPI a perdu sa crédibilité en refusant de poursuivre ses dirigeants occidentaux qui ont pourtant commis des crimes graves au cours de ces dernières années.
Le président rwandais Paul Kagame condamne ce qu'il qualifie d'arrogance de l'Occident après l'arrestation à Londres du chef des services de renseignement du Rwanda. Le président nigérian va rencontrer Barack Obama le mois prochain pour discuter de la lutte contre Boko Haram et d'autres questions cruciales, dont les réformes politiques et économiques au Nigeria. Selon la Maison-Blanche, le président américain recevra Muhammadu Buhari le 20 juillet. Au Niger, l'armée affirme avoir tué une quinzaine de miliciens de Boko Haram au cours d'opérations terrestres et aériennes contre des positions du groupe armé nigérian. Jean-Roger Bion. Dans un communiqué diffusé par la radio d'État mercredi soir, le ministère nigérien de la Défense indique que 15 miliciens sont morts et qu'une vingtaine d'autres ont été faits prisonniers. Un véhicule blindé a été détruit et 20 motos saisies, ainsi que des vivres et du carburant. Le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Mustapha Ledru, qui a lu le communiqué, n'a pas précisé le site de l'opération, mais Boko Haram reste actif. Dans le sud-est du Niger, près du lac Tchad et des frontières avec le Nigeria et le Tchad. On ignore également si l'armée tchadienne a participé à ces opérations régionales pour éradiquer Boko Haram. Le 18 juin, Boko Haram a mené une attaque sanglante contre 2 villages du sud-est nigérien, frontaliers avec le Nigeria. 38 civils, dont 14 hommes, 14 femmes et 10 enfants, ont été massacrés. Les États-Unis ont condamné l'attaque et ont rappelé leur engagement à œuvrer avec les gouvernements de la région pour éradiquer la menace posée par Boko Haram. Au Sénégal, la société civile sénégalaise se mobilise contre les pénuries d'eau et les fréquents délestages. Plusieurs groupes ont tenu en début de semaine une conférence de presse au siège de l'association Yanamar à Dakar, la capitale, pour faire le point et pour planifier des actions futures en vue d'interpeller les autorités sur cette situation. Timothée Donogmaï a joint à Dakar Simon Koka de l'association Yanamar.
On nous dit que c'est des pannes liées aux câbles qui n'ont pas été nettoyés, que c'est la poussière, etc. C'est vraiment des excuses, des fois que les Sénégalais ne peuvent pas comprendre. C'est vraiment des détails. On nous dit des détails de nettoyage par-ci, par-là, des petites pannes par là-bas. Bon, à un certain moment, il y a eu des pannes. Ça, on l'a constaté. Il fallait attendre, surtout pour l'eau, qu'on change. Donc ça, il n'y avait pas lieu de faire une manifestation. Mais aujourd'hui, personne, ni le directeur de la Sénélec, ni qui que ce soit, n'est en principe de dire aux Sénégalais, voilà le problème. Donc à un certain moment, d'ailleurs là, le directeur de la Sénélec a été limogé avant-hier. Donc je crois que c'est à cause de ses coupures. Et le président a trouvé nécessaire de le limoger. Il a changé le ministère de l'Énergie. Il a amené dans un autre poste pour mettre son directeur de cabinet. La question, ce n'est pas de changer les hommes. Depuis des années, on change pas mal de directeurs et le problème persiste. Dès qu'on est à l'été, les coupures reprennent.
Simon Koka de l'association Yanamar, il nous parlait depuis Dakar.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Le Premier ministre grec Alexis Tsipras s'est dit confiant jeudi dans la capacité de la Grèce et de ses créanciers à parvenir à un accord sur le renflouement financier du pays. Il a retrouvé les créanciers de la Grèce pour une nouvelle série de pourparlers visant à éviter la banqueroute de son pays. Mais en fin de journée, aucune partie ne signalait le moindre accord ou la moindre percée. En Syrie, nouvelle offensive des djihadistes de l'organisation contre la ville de Kobané, un bastion des forces kurdes à la frontière avec la Turquie. L'attaque a commencé avec un attentat suicide tôt ce matin près d'un poste frontière qui aurait fait des dizaines de morts et de blessés, selon l'Observatoire syrien pour les droits humains. On rappelle que les forces kurdes soutenues par l'aviation de la coalition menée par les États-Unis ont pris Kobané en janvier après des mois de combat contre les djihadistes. L'Iran et les grandes puissances entament cette fin de semaine à Vienne un marathon de négociations pour solder le dossier nucléaire iranien, l'un des plus épineux de la diplomatie actuelle. Félix Yepassis Zembrou nous en dit davantage.
Après de longues années de tensions et 20 mois de discussions acharnées, ils vont s'efforcer de mettre le point final à un accord souvent qualifié d'historique. Le délai limite est mardi 30 juin et le succès n'est en rien garanti. L'objectif de ces pourparlers, garantir pour l'avenir que le programme nucléaire de la République islamique sera uniquement civil, en échange d'une levée des nombreuses sanctions internationales qui entravent depuis 2005 l'économie iranienne. Le soupçon, toujours démenti par l'Iran, que ce pays chercherait à s'équiper de l'arme nucléaire, empoisonne les relations internationales depuis 12 ans. Dans la région, la perspective d'une bombe iranienne effraie Israël, mais aussi les grands rivaux sunnites de l'Iran chiite, en premier lieu l'Arabie saoudite.
La Cour suprême américaine a confirmé jeudi l'une des principales dispositions fiscales de l'Obamacare, l'assurance santé publique, une réforme phare de la présidence de Barack Obama. Par 6-3, les magistrats de la Cour suprême ont jugé que l'Affordable Care Act, voté en 2010, n'institue pas une restriction aux aides fiscales reçues par certains États de l'Union. L'un des auteurs de l'attentat au marathon de Boston, Djokhar Tsarnaev, a présenté ses excuses aux victimes et survivants de l'attaque du 15 avril 2013, peu avant d'être condamné à mort. « Je suis désolé pour les vies que j'ai prises, pour la souffrance que je vous ai causée, pour les dommages que j'ai faits. Des dommages irréparables », a déclaré le jeune homme, aujourd'hui âgé de 21 ans. Jusqu'à mercredi, le jeune homme n'avait pratiquement rien dit en public depuis son arrestation.
« Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.